Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et voici l'heure de conclure cette première journée au Salon CIMI. Mon cher Sylvain, une première journée intense. On a commencé très fort.
Hein. Ouais. Vous êtes bien débrouillé aujourd'hui.
Quelle journée. On a enchaîné.
Je vous trouve absolument magnifique.
Bah,
superbe.
C'est gentil, Sylvain. J'essaie de me mettre
belle,
à la hauteur.
Journée. Bon, ça fut une très belle journée, même si effectivement, on n'a pas dit que des choses qui s'apparentent à des bonnes nouvelles.
Non.
Hein, on n'a pas fait de la méthode couée quand même. Hein.
Non, mais on a parlé de vrais sujets, de sujets de préoccupation, de sujets intéressants, de sujets actuels, de perspectives. Et là, on va parler aussi, Sylvain, d'un très beau sujet. On va parler du Consortium des bureaux en France, une initiative privée qui rassemble la place de l'immobilier, la foncière de transformation immobilière et Link City. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Blaise Horteux. Bonjour Blaise.
Bonjour.
Vous êtes associé fondateur de la place de l'immobilier et Catel Le Guillou. Bonjour Catel.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la foncière de transformation immobilière. Merci beaucoup de répondre à nos questions et de clore avec nous cette première journée du Salon CIMI. Alors, on est rassemblés aujourd'hui parce que pour la première fois en France, le parc d'immeubles de bureaux a été recensé de manière exhaustive. Comment ?
Il était temps.
Alors globalement, on est avec Catel et avec Laurent, donc Link City et la FTI, on a pris cette initiative il y a un an et demi et le but était de travailler tous ensemble avec nos expertises conjointes pour créer des nouveaux indicateurs et aider le secteur de l'immobilier à y voir plus clair sur la quantification, la segmentation, la part de vide, tous les enjeux qu'on pouvait avoir sur le marché de l'immobilier. Cette approche globale n'avait jamais été faite en amont. Hein. C'est-à-dire que globalement, on avait quelques stats régionales, l'ORIE, 56 millions de mètres carrés de bureaux, ouais. Certaines villes qui avaient fait des stats. On avait des stats sur les opérations, avec notamment les agents immobiliers qui vous parlent de prime, de demande placée,
mais
de stock d'offres.
L'ORIE est en plus un organisme créé avec la préfecture et les acteurs de l'immobilier. Ouais. Donc normalement, il devrait être extrêmement au fait, précis des stats, non ?
Absolument. Et en fait, leur gros problème, c'est d'accéder aux data, puisqu'on avait déjà travaillé un peu avec eux. Et l'accès à la data qui est à la fois de la data publique, à travers les matrices cadastrales, les fichiers SIRENE, et à la fois les data privées, avec les agents immobiliers, le parc, les promoteurs, voilà, rassembler toutes ces data et avoir en interne la connaissance et l'expertise pour pouvoir traiter ces data et avoir des objectifs de quantification, de segmentation, bah, l'ORIE a un peu de mal à mobiliser tout le monde. Donc c'est là où nous, on a pris le devant et on s'est dit, entre la FTI qui a une logique elle-même, notamment sur la transformation du parc de bureaux, Link City qui opère beaucoup en région avec des logiques plus assez larges de développement, et nous, la place de l'immobilier qui travaillons depuis 17 ans sur la data, en rassemblant les trois et en travaillant très conjointement et très, de manière très transparente, et ça c'est aussi un point qui est très marquant sur le consortium, c'est qu'on travaille en tout.
Parce que vous avez partagé la méthode scientifique que vous avez utilisée, vous l'avez partagée à tous.
Alors typiquement, nous on avait la data, et historiquement on l'utilisait beaucoup pour faire du commercial, de la transaction.
Ouais.
Et on s'est dit, bah, on a de la data qui est suffisamment bonne pour commencer à avoir une initiative un peu plus type observatoire, mais on avait besoin de s'adosser avec des gens qui avaient travaillé le terrain, qui étaient capables de challenger, qui avaient une expertise forte pour nous aider à défaire des définitions, à tester des modélisations.
Comme foncière de transformation et Link City.
Alors justement, absolument.
Pourquoi les avoir choisis ? Pourquoi les avoir sollicités sur le projet ?
Ah bah, d'abord, on s'entend bien. Ça, c'est un point qui est important, on s'entend très bien.
Mais tout le monde s'entend bien avec Catel.
Bah, on a la chance de l'avoir.
Elle est extraordinaire.
C'est nous qui l'avons eue.
C'est une grande dame de l'immobilier, ça on le savait.
Voilà, maintenant je suis mal à l'aise.
C'est important, parce qu'en Link City, on peut comprendre, foncière de transformation, et comme c'est le groupe Action Logement, comme elle me précisait, ce n'est pas exactement les mêmes modèles de gouvernance, pas les mêmes modèles de configuration, ce n'est pas les mêmes impacts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, c'est de l'immobilier de toute façon, le dénominateur commun. Mais pourquoi justement, spécifiquement, ces deux acteurs-là ? Parce que tu aurais pu le faire sur d'autres...
Du fait qu'ils aient des modèles différents, qu'ils ont des positionnements différents, ils travaillent sur des territoires différents,
là, je comprends mieux.
On a une vraie complémentarité et qui permet aussi cette transparence. C'est-à-dire, si on n'est pas concurrent, bah, on peut travailler ensemble et partager nos recettes de cuisine.
Je comprends bien l'idée. Catel, justement, c'était l'idée quand le projet vous a été présenté. Est-ce que vous avez trouvé ça smart, plutôt ingénieux ? Et en fait, in fine, moi, quand je vois le résultat, quand je vois la démarche que vous avez entreprise, extrêmement utile.
Nous venons du monde de l'immobilier résidentiel, où effectivement, il y a un inventaire des logements qui est fait, qui est partagé, et nous avons l'habitude de cela. Quand nous sommes intervenus pour acquérir des actifs obsolètes tertiaires, nous nous sommes retrouvés face à une absence d'inventaire. Mmh. Et donc, quand Blaise est venu nous proposer en nous disant « Aidez-moi à fiabiliser ma base de données avec la vôtre, aidez-moi à faire des sondages, critiquez-moi par rapport aux données que je peux avoir, quels sont les acteurs, enfin les indicateurs qui vous seraient utiles pour procéder à de la transformation ?» On s'est dit avec LinkCity, on va partager, on a ouvert nos bases de données. Nous, par exemple, sur la foncière transformation immobilière, nous
travaillons... Vous avez partagé vos bases de données, non ?
Oui.
Non, c'est bien, c'est...
Nous travaillons principalement en Île-de-France. LinkCity travaille en région. Et donc, nous avons regardé sur plusieurs classes d'actifs les informations que nous avions. Nous avons recoupé par rapport à des propriétaires. Quand il y avait des erreurs, nous les avons relevées. Nous avons essayé de voir si on pouvait corriger des erreurs généralisées. Et voilà comment nous avons procédé pendant un an et demi.
Et donc, votre travail, il a permis d'identifier 173 millions de mètres carrés d'immeubles de bureaux dans notre pays.
Exactement.
173 millions.
Alors, ça n'avait jamais été fait, cet inventaire immeuble par immeuble, les quantifier, ça n'avait jamais été fait. Donc, on est arrivé avec un degré de fiabilité, parce que alors, je vous passe les tests des docteurs en mathématiques qui vous disent globalement, est-ce qu'on a bien tout l'échantillon ou est-ce que dans l'échantillon, on a des trucs faux. Enfin, voilà comment on travaille. Moi, j'ai l'impression de plus faire de maths que de l'immobilier, mais globalement, on est arrivé à ce chiffre de 173 millions avec suffisamment de sérénité.
173 ou 173
173. 173. Millions de mètres carrés.
Mais moi, je suis resté sur 54 millions de...
Mais ça, c'est parce que tu es resté en Île-de-France. Il faut aller en région rajouter les chiffres de région.
Mais avec la région,
ouais, moi aussi, mais j'étais resté plus sur 50. Pareil, comme Sylvain, j'avais ce chiffre-là en tête. Ça me paraît...
Bah, entre
génial, mais c'est à ça que ça sert aussi.
Entre Paris, les 8 départements, un cinquième de la population française et l'indexation, on était entre 55 et maximum 70 millions de mètres carrés.
Non, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Île-de-France, qui avait été quantifiée à 56 millions, représentait les 3 quarts ou les 2 tiers du parc. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que
pas du tout le cas.
Un cinquième. On avait estimé à un cinquième du parc.
Et effectivement, il y a un point qui est assez majeur. Et c'est pour ça que c'était très bien aussi d'avoir LinkCity avec nous, qui travaille beaucoup sur les régions. Mais on a cette centralité, cette vision très Île-de-France et très parisienne, avec des gros investisseurs qui représentent 10% du marché, de l'investissement. Donc, ces gros investisseurs sur des gros immeubles et tout ça, c'est tout ce qu'on voit ici. Mais globalement, il y a tout un parc et vous verrez, dans notre 173 millions, on a du parc marchand et du parc non marchand. Et vous, ce que vous voyez, c'est du parc marchand. C'est nos investisseurs, les Périales, les Prémoniales, voilà, qui investissent, mais on ne voit pas le parc non marchand. Et le parc non marchand, si vous rajoutez déjà ne serait-ce que le parc de l'État, on parle de 21 millions.
Mais finalement, dans le parc non marchand, effectivement, on peut intégrer aussi les entreprises qui ont acheté leurs propres immobiliers, qui ne sont pas du tout dans le radar, qui ont fait des opérations d'arbitrage en interne. Et qui ne sont pas relevés, notamment les petites ETI, pas mal d'ETI, on en a eu une tout à l'heure, effectivement. Oui, effectivement.
Non, mais alors, le marchand privé, il représente quasiment la taille du parc de bureaux en Île-de-France. On parle de 47 millions.
Oui.
Donc, il faut l'intégrer.
Maintenant qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, c'était vraiment la question. Une fois, alors quand on était en interne, on se disait, bon, on a 113, alors, ça nous fait une belle jambe, on fait quoi après ?
On l'a identifié, que je comprenne bien. On sait qu'on a un volume en mètre carré, on sait qui, on sait quoi et on sait comment.
Et où ?
Et on a l'adresse, on a le numéro de téléphone, le mail ?
Oui. Non, pas le mail.
On a quoi alors ?
On a le bâtiment, avec toutes les caractéristiques du bâtiment.
Mais ces données sur le site de l'État sont en open source, en open data, sans problème.
Alors, vous avez la base du CSTB qui donne du bâti, mais vous n'avez pas les usages.
On n'a pas les usages.
Vous n'avez pas les usages. C'est-à-dire que l'État,
on a l'adresse de tous les propriétaires en open source sans aucun problème.
Mais vous avez des SCI. Vous ne savez pas qui est derrière. Est-ce que c'est un utilisateur ? Est-ce que c'est un investisseur ?
Vous avez
des immeubles, vous n'avez pas de nature. Vous avez des immeubles, vous ne savez pas le taux de remplissage. Vous avez des immeubles, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'on avait d'autre comme données qu'on a. Quand on a cartographié ce parc, on a cherché le marchand, non marchand, on a cherché le vide et le vétuste, on a recherché un certain nombre d'indicateurs. Vous avez juste quelque part une enveloppe avec un mètre carré, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est ça vraiment la différenciation, c'est de fiabiliser ces données pour derrière en tirer des enseignements. Et là, on rebondit sur le 73 millions. À quoi sert le 173 millions ? Le 173 millions, il arrive à vous dire, par exemple, que quand on parle de 9 millions de mètres carrés vides en France, on identifie dans le parc marchand puisque c'est là où il y a la financiarisation, c'est là où il y a le stress. Le parc vide est un stress.
Donc c'est 9 millions des 70 millions du parc marchand à peu près.
Alors sur le parc marchand, on est à 89 millions sur les 133. Millions. On est à 52%.
Okay.
Donc si vous prenez le 9 millions sur le 89 millions, vous commencez à voir quel est l'impact de ce vide. On est un peu plus de 10%.
Et du coup, est-ce que ça nous permet aussi de nous dire qu'est-ce qu'on en fait de ces mètres carrés vides ?
Alors, est-ce qu'ils sont structurels déjà ?
Est-ce qu'on peut transformer l'usage de ces mètres carrés ?
C'est le principe de la foncière.
Voilà, c'est-à-dire que nous avons mesuré la vacance des différents marchés de bureaux et nous avons créé un indicateur qui disait quels sont les bureaux de plus de 1000 mètres carrés pour opérer, ou est-ce que je veux dire, potentiellement une opération de transformation avec une réalité économique, qui sont vacants depuis plus de deux ans. Et on a vu qu'il y avait 1,2 million en Île-de-France et
2 millions en France. 800 000 en région.
Et 800 000 en région.
Et donc, il y a 9 millions. Voilà. 9 millions de mètres carrés vides. 2 millions d'immeubles vides depuis plus de 2 ans, plus de 1000 sur lesquels on peut faire des opérations.
2 millions.
2 millions de mètres carrés.
De mètres carrés pour combien d'immeubles, vous m'avez dit ?
Ah, le nombre d'immeubles, je ne sais pas. On a 2 millions sur le parc total qui était de 89 millions.
Donc, dans une crise du logement qu'on connaît actuellement, donc, il y a 2 millions de mètres carrés.
Vous avez résolu le 1, c'est ça. Chers amis, nous avons résolu la crise du logement.
Alors, une partie.
Non, mais c'est énorme déjà, 2 millions de mètres carrés.
C'est juste considérable, Catel.
Après, maintenant, il va
falloir,
maintenant qu'on partage ce chiffre, il va falloir le montrer, où est-ce qu'il se situe, à quel endroit.
Politique,
et puis, il va falloir avoir une convergence du propriétaire qui va devoir accepter.
Mais il n'y a plus de valeur.
Ça, le deuil de la valeur prend parfois du temps. Et parfois, on arrive même à convaincre des opérateurs à perdre de la valeur, de rentrer dans les SCCV avec nous pour opérer la transformation et toucher la marge.
Mais voilà.
De l'opération.
Il faut le dire, les proprios que vous nous écoutez, là, votre immeuble, il est vide, il ne se louera jamais, je vous le dis, il ne se louera jamais, surtout avec les normes, mais il faut le dire, ça.
Et puis, on ne saura pas peu de deux à venir convaincre les collectivités de donner un accord sur la transformation et aussi d'avoir un accord sur un calendrier de transformation.
C'est hyper important ce que vous dites, parce qu'effectivement, sans l'appui fort des élus locaux et dans des programmes aussi de revitalisation de parcs de bureaux, notamment, ça peut passer. Vous savez comment on appelle ça en anglais ? On appelle ça les strands assets, des actifs naufragés. Et en fait, on ne sait plus ce qu'on fait. Il n'y a plus de valeur. Mais on a quand même des propriétaires qui ont la tête sur les épaules. Ils devraient d'ailleurs coopérer avec vous, puisque vous pouvez les faire entrer dans la danse. Justement.
Ils le font.
Ils le font.
De plus en plus.
Parce que c'est un formidable atout que vous avez finalement. Comment on fait le mécanisme ? On peut prendre un exemple ou pas ? Voilà, j'ai un immeuble qui fait 2000 mètres carrés.
Je préfère à 3005 mètres carrés SDP.
Il fait 5000 mètres carrés.
Très bien.
Ça fait 3 ans qu'il est quasiment vide. J'arrive plus à le louer. J'ai plus une thune pour le rénover parce que je trouve que c'est trop cher. On m'a fait des devis de fou. Et j'ai dit, entre le risque de rénovation que je vais prendre au mètre carré, grosso modo entre 300 et 800 euros du mètre carré rénové, parce que le truc est vraiment pourri dans les années 70. D'ailleurs, celui qui l'a construit, on l'a mis en prison. Non, je déconne. Et je me dis, je ne prends pas le risque. Pourquoi ? Parce que je sais que sur le taux de renta sur le bureau, compte tenu de la vacance, des nouveaux usages, du fait que les entreprises aujourd'hui restreignent leur volume, et ça c'est clair, vont beaucoup moins haut, sont beaucoup plus opportunistes et se rassemblent, notamment des nœuds urbains extrêmement importants, ce qui est tout à fait logique, c'est un changement d'usage. Là, je me dis, je ne prends pas le risque, mais du coup, je suis très emmerdé. Comment je peux faire ? Voilà. Est-ce que ça, c'est un cas d'école potentiel ?
Tout à fait. Généralement, ils trouvent le moyen de nous joindre pour nous permettre d'étudier l'actif. Donc, on va l'étudier dans toutes ses composantes, qu'elles soient son implantation, évidemment, ses composantes techniques, quel est son mode constructif, quelle est son année de construction, parce qu'il y a toujours le sujet de l'amiante, quelle est la nature de sa façade, où sont positionnées ses circulations, quelles sont l'épaisseur du bâtiment. Et de tout ça, nous allons travailler pour définir une programmation qui va être conforme au PLU ou au PLH de la ville, et puis définir une valeur. On va s'agréger les opérateurs, donc il va nous falloir évidemment des architectes, des bureaux d'études, des opérateurs, promoteurs, bailleurs, qui ont le goût de la complexité de la transformation, parce que ça, il faut le dire, c'est quand même un nouveau métier, et une filière qu'il nous faut aussi organiser pour qu'on puisse massifier la transformation.
Ça tombe bien, elle est en crise.
Oui, mais il est difficile de se renouveler, mais voilà, on accompagne tout ça. Et donc on définit une valeur, on est tous d'accord. Et on va donc aller rencontrer la collectivité pour partager l'ensemble de notre travail. Et puis, nous arrivons à la convaincre.
Mais de toute façon, la collectivité, on est d'accord c'est son intérêt premier.
Il faut la convaincre.
Parce que vous allez relocaliser l'immeuble, vous allez en faire un immeuble d'habitation, par exemple.
Oui, mais nous allons aussi amener des populations qui vont être consommatrices de services. Et pour ce faire, la collectivité va devoir accompagner donc, ces populations qui s'installent par écoles.
Elle peut venir également des administrés de la ville qui ne trouvent pas de logement, non ?
Oui, mais quand un quartier, par exemple, a été aménagé pour recevoir de l'emploi ou du bureau,
oui, bien sûr.
Parfois, il faut quand même trouver quelques...
Et vous avez des gens qui disent, je suis exsangue en termes de ressources, je vais devoir construire des aménités qui vont devoir... Parce que c'est vrai, c'est un pari aussi pour l'élu local, qui n'a plus rien.
Après, il est difficile d'être élu local et d'être confronté à une population qui n'a pas forcément envie de recevoir... d'avoir des personnes, nouvelles personnes qui vont venir s'implanter et ceci, cela. Donc il faut qu'il arrive à convaincre ces populations de l'intérêt de recevoir
nos
projets de transformation.
Alors Katel, que je comprenne bien, quand vous parlez des nouvelles populations qui arrivent, c'est des nouveaux administrés qui arrivent dans la ville.
Oui.
Ce sont des administrés de la ville
Ils n'ont pas une configuration particulière. Ce ne sont pas des cas sociaux, ce n'est pas des populations vulnérables qui pourraient faire peur aux bourgeois en question. Non.
Vous savez bien qu'il nous faut actuellement préserver le contrat social de notre belle société. Donc,
parce que
élus, ils travaillent au quotidien.
Non, parce que dans ce que vous dites, il y a un phénomène qui est très important et je pense qu'il faut saluer et accélérer votre action parce que pour moi, l'essentiel, c'est qu'on bascule irréversiblement, malheureusement, et ça c'est un fait, on en a parlé d'ailleurs avec la gouvernance d'Action Logement, mais d'autres en groupe, sur une gentrification qui est un phénomène sociologique qui se creuse avant tout par les inégalités. Et on peut le tourner comme on voudra. L'accroissement des richesses de certains qui détiennent de plus en plus les fortunes immobilières aujourd'hui, pour le dire, sont au détriment d'une grande masse de population qui n'arrive plus à se loger, qui sort des centres urbains, qui s'éloigne des bassins de l'emploi et qui se précipite dans une relégation sociale dont ils ne sortent plus. Et le contrat social, si on parle de contrat social, même si on ne peut pas arriver, parce qu'on ne peut pas arriver à une mixité sociale, et je doute qu'on ait des gating communities ou des kibbutz urbains dans le 16e arrondissement, mais quand même, on peut arriver à des mixités. Je pense que vos outils-là sont essentiels, ils sont même d'intérêt général. Ce que tu as fait, Blaise, est absolument remarquable. Parce que je pense que
ce
que vous avez fait dans cette œuvre commune est absolument remarquable.
Ça doit être plutôt bien accueilli quand même par les pouvoirs publics.
Justement, Katel, comment on peut faire pour booster l'action de foncière de transformation ? Comment on peut ? C'est quoi demain le projet pour essayer de massifier, d'aller de plus en plus vers des communes qui ont été entre guillemets, abandonnées aussi, avec des bâtiments qui mériteraient réellement qu'on leur redonne vie et qui permettraient aussi à des personnes de trouver un logement digne et décent.
Ce que fait le consortium, c'est qu'il va porter à connaissance des collectivités le parc de bureaux leur ville.
Identifier, c'est une première étape. Et c'est très important, c'est ça, identifier. Mettre un chiffre, un nombre, un nom,
une ça les étonne.
Location. Et ça, si je peux rajouter un point, c'est qu'en fait, par la connaissance fine de ces enjeux de vide, on arrive à déterminer des orientations vers des solutions. Je m'explique. Un immeuble isolé dans une zone résidentielle, on peut avoir ce type de mixité, ces réflexions et tout. Et quand je suis sur une zone, si on prend la zone de Reuilly-Seine, la Défense, toutes ces zones très tertiarisées à la base, qui, elles, ne trouvent plus de preneurs, on n'est plus dans une problématique d'un immeuble, un investisseur, on est dans une problématique de zone. Et là, ça devient un quartier,
c'est un quartier d'aménagement,
lequel, à ce moment-là, on peut réfléchir à un équilibre entre le commerce,
c'est vachement bien.
Le résidentiel social, le résidentiel privé, l'hôtel, le bureau.
Tu sais, tu parles d'or, parce que ce sont des lieux qui sont à une encablure des bassins d'emploi et qui permettraient de redonner vie et de l'espoir à des populations qui ont été exclues aujourd'hui.
Elles sont très bien placées.
On fait 3 heures de transport en commun pour aller bosser tous les jours. C'est une réalité, ça. Nous, on est un peu des nantis, puisque nous, on est toujours à une encablure de là où on bosse. Mais il y a une autre vie, il y a une autre France qui le vit extrêmement durement. C'est pour ça que les missions menées par Action Logement, par les dispositifs d'aide également d'accès à la propriété de logements aussi opérés, permettent effectivement d'y aller. Ce que je trouve remarquable, c'est vraiment le fait d'aboutir à cela. Est-ce que le gouvernement, juste comme ça, Est-ce que le gouvernement s'est saisi de ces chiffres ?
Mais c'est qui le gouvernement ?
Extraordinaire.
Oui, oui. Que une réponse, si tu nous expliques, si tu nous dis qui voir, on va le voir. Mais là, pour l'instant, on est un peu paumé. Alors, objectivement, on les a vus.
On les a vus.
On a vu le conseil technique avant que dans le gouvernement de Barnier.
Ou alors,
et puis, il y avait un beau projet de loi sur la transformation des activités.
Ah bon ? Ah oui, qui était porté par des élus.
Monsieur Romain Daubier.
Ah, très bien.
Voilà, qui contenait énormément de dispositions.
Romain Daubier, qui est député. Hein, qui est...
Exactement. Ouais. Et qui contenait pas mal de prescriptions qui nous faciliteraient la transformation. Par exemple, dans le cadre d'une copropriété, quand vous voulez opérer un changement d'usage, vous devez demander au copropriétaire le changement d'usage et ce vote doit être fait à l'unanimité.
Absolument. Et vous avez demandé une majorité simple.
Exactement.
Et après, il y a eu le rapport Richer aussi.
Oui. Oui,
et le rapport Richer qui a été demandé par Kasparian et par le ministre.
Rapport d'André Richer, ancien patron de la Banque des Territoires.
Absolument, avec cette logique d'industrialisation et comment on monte des véhicules financiers avec de la fiscalité dans le but d'industrialiser.
C'était le ministre Kasparian, entre-temps, il est quand même sur Paris Match.
La prise de conscience, c'est ça qu'on veut pousser. Et derrière cette prise de conscience, c'est comment on industrialise les process.
Non, mais disons les choses vraies, parlons vrai. Parlons vrai, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est remarquable, c'est utile, et que c'est un désastre, c'est même presque un crime à l'égard des Français, de faire en sorte que ce projet magnifique, parce qu'effectivement, j'en avais entendu se parler, et d'ailleurs, je vais vous dire, la réforme du statut de la copropriété sur le principe du vote, je vais aller plus loin, on pourrait même élargir à la rénovation énergétique des copropriétés, qui est un vrai sujet, dans lequel il faut à peu près 4 ans pour faire des travaux, quand tout le monde est d'accord. Hein. Et puis il faut savoir, et puis aussi la notion de propriétaire occupant et de propriétaire bailleur, qui pose des vrais sujets de conformité à l'échelle des bâtiments. Si ce n'était pas fatal, finalement, aux habitants qui vivent mal, qui respirent mal dans un air vicié, parce qu'il n'est pas renouvelé, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la rénovation énergétique, ce n'est pas le beau et l'esthétique qui va compter, c'est aussi la santé publique. Donc ce que vous faites, c'est absolument remarquable. Moi, j'aimerais bien que vous disiez aussi, enfin, j'essaie de vous le dire, c'est normal, je suis journaliste, de vous faire dire, de vous dire, ce qu'on a, c'est d'utilité sociale, il faut absolument se battre. Et effectivement, c'est déplorable de voir que le projet porté par le député Daubier tombe comme ça aux oubliettes, parce que malheureusement, vous avez raison, ma chère Catel, il est tombé aux oubliettes. J'ai confirmation de ça. Et je pense que même si on a une loi d'exception, je ne suis pas sûr qu'il revienne au devant de la scène. Est-ce qu'il coûtait de l'argent, ce projet ? À l'État ? C'est juste une mesure, en fait. Vous ne leur avez pas demandé de l'argent, vous leur avez demandé une mesure.
Non, et en plus, il comportait, si vous voulez, une taxe d'aménagement aussi pour permettre aux collectivités de bénéficier, vous voyez ce que je veux dire, d'un apport financier lié à la transformation.
C'est génial. Il faut absolument tout faire, les amis, pour promouvoir ce genre d'action et de le dire.
En tout cas, c'est une belle chose que...
Juste une dernière question, si vous voulez bien, Grégoire. Est-ce que, in fine, une fois qu'on aura peut-être un nouveau gouvernement, c'est quoi le devenir de tout ça, indépendamment du rôle de l'exécutif ?
Qu'on soit clair, nous, on est partis avec nos moyens. On est partis avec la mutualisation, l'investissement qu'on pouvait avoir.
Oui, parce que
c'est de la gratuité, tout ça. Donc,
Vous qui avez financé.
On a financé avec l'étude. du temps homme, on a financé avec nos propres moyens, nos data, nos experts, nos tests, voilà. L'enjeu, effectivement, il était mené à 3. Et l'enjeu, c'est de se dire... Bah déjà, est-ce qu'on apprend à travailler ensemble ? Parce qu'on a des cultures différentes entre Action Logement, une start-up et un groupe Bouygues Construction. Comment on arrive à travailler ensemble et à coopérer pour avoir des données suffisamment fiables et dans lesquelles on est suffisamment à l'aise pour publier ? On a co-investi avec des conférences, donc pour faire connaître notre connaissance. Pour l'instant, notre enjeu, c'est de diffuser la connaissance. Donc à partir de là, comment tout ça va évoluer ? On verra bien si effectivement derrière...
Il y a un but.
Le but, c'est alors à la fois que Catel elle puisse aller voir les élus et faire voir les chiffres et montrer qu'il y a une vraie nécessité d'avancer, à la fois de communiquer sur la presse nationale, sur les médias, pour faire voir qu'il y a un vrai enjeu et on parle de vrai volume.
Parce qu'on parle de gâchis de mètres carrés. Hein. Vous avez vu le livre de Eleonore Slama sur le gâchis des mètres carrés, avec un outil qu'elle a mis en place qui s'appelle l'Intensiscore. Moi, je trouve très intéressant la corrélation qu'on pourrait faire.
On s'est croisé avant la conférence et on a dit qu'on allait faire quelque chose.
Voilà, sur cette étude, je pense que... parce qu'il faut qu'il y ait un projet derrière, Blaise, et tu le sais. Il faut qu'il y ait un projet, indépendamment même d'une décision politique auquel nous sommes tous soumis. Parce qu'il y a des injonctions qui sont faites par les régions, tout simplement avec le transfert des compétences au niveau des régions, peut-être même des associations comme Ville de France qui regroupe les 200 000 moyennes qui sont très touchées par ces phénomènes effectivement d'obsolescence ou même de retour sur l'immobilier, en sachant que de toute façon, avec l'étalement urbain, il va falloir nécessairement se saisir de ces mètres carrés pour transformer notre ville. Puisqu'on sait que tout ce qui nous entoure et ce qui est construit le sera déjà en 2050. Il faut quand même se poser cette question. Il faut qu'il y ait un devenir là-dessus.
Avec une mixité programmatique.
Ok. Il faudrait écrire un bouquin là-dessus, moi, je pense. Blaise. Moi, je vous suggère, mon cher Catel, et mon cher Blaise, peut-être de faire un... Oui,
qui pourrait s'intituler 173 millions de mètres carrés de bureaux en France.
Là, il y a déjà des titres qui sont repris avec 9 millions de mètres carrés vides. C'est peut-être que c'est celui-là qui fera plus bouger les choses.
Peut-être. Non, mais tu as absolument... Bravo. C'est
réflexion à mener, en tout cas.
Je pense qu'on va vous inviter tous les deux sur Sud Radio.
Exactement.
Pour justement parler au grand public. Je pense que c'est important de la culture. Ouais, moi, franchement, je suis stupéfait, sidéré, pour ne pas dire autre chose, d'apprendre qu'il y a 173 millions de mètres carrés. Ben, ouais.
Une belle solution, en tout cas, proposée par le Consortium des bureaux en France. Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de clôturer cette première journée avec nous. Merci, Sylvain Lévy-Valency.
On se retrouve demain à quelle heure, mon cher Grégoire ?
On sera là à partir de 10h demain, au taquet, pour une nouvelle très grosse journée qui nous emmènera de 10h à 19h à peu près sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria.
Voilà, sans oublier qu'on ira boire un verre de blanc et manger des huîtres chez nos amis exposants entre deux. Voilà, on était ravis de partager cette journée avec vous. Un petit clin d'œil à nos amis du Carrousel du Louvre qui finissent le congrès FNAIM avec Bérénice.
Ils seront avec nous demain.
Et toutes les équipes où tout le monde sera de retour. Fin et prêt. On vous souhaite, ma chère Catel, mon cher Blaise, un excellent CIMI. Et on se retrouve toutes et tous demain. Salut Grégoire.
Allez, bonne soirée.
Le CIMI du 10 au 12 décembre 2024 au Palais des Congrès de Paris en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.